On va aller dans la continuité. Je vous disais que, en tout cas, dans tout ce que nous voulons faire ici, ce qui est important, c'est de toujours avoir ça à l'œil. Et vraiment, comme objectif, c'est notre motivation, c'est notre amour pour les autres. Si on vient ici juste pour... D'ailleurs, je vous disais qu'il ne pouvait pas y avoir de dissociation entre notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. C'est impossible. Si tu aimes Dieu, tu aimes les autres. Si tu n'aimes pas les autres, pose-toi la question si tu aimes vraiment Dieu. Ça fait grincer. Hein. Mais il faut se poser la question parfois. Alors moi, je sais, je suis un homme qui se pose toujours plein de questions. Et souvent, les prédications sont le fruit des questions que je me pose. Mais c'est vraiment important de se poser la question. Où est-ce que j'en suis dans mon amour pour mon prochain? Parce que Jésus aime notre prochain. Et notre objectif, c'est d'aimer comme Jésus a aimé notre prochain. Et dans tout ce que nous allons faire, tout est basé sur une seule motivation. Notre amour pour notre prochain. Moi, ce qui me pousse à venir ici, c'est parce que je vous aime. J'aime le Seigneur, bien sûr. Mais c'est parce que j'aime chacun d'entre vous. Et parce que j'aime l'Église, parce que j'aime ce que Dieu fait. Et ce qui doit nous pousser, ce qui nous pousse à faire, c'est l'amour. Quand je range correctement mes affaires dans mon bureau, c'est par amour pour ma femme qui monte dans le bureau, qui dit « Bruno, fais quelque chose ». Quand elle me demande de faire quelque chose que je n'ai pas envie, c'est par amour que je le fais. Et soumission. À ce qu'elle voudrait, bien sûr. Tout ce qui nous pousse doit nous amener à être fait par amour. Si je n'ai pas l'amour, dit l'apôtre Paul, je suis qu'un truc qui résonne, quoi. Une cymbale qui retentit. Vous voyez ? Donc c'est vraiment important. Donc ça, c'est un petit rappel. Maintenant, si vous pouviez afficher. Voilà. Créer un environnement propice à ceux qui ne croient pas. Je me pose beaucoup de questions aujourd'hui, c'est par rapport à mon témoignage de mon travail. Vous voyez ? Parce que je me dis, je ne témoigne pas assez au niveau du boulot. Des fois, je fais des petites... je jette des petites graines, mais très discrètement. Et je me dis, mais comment je peux, moi, dans ma vie personnelle, créer un environnement qui permettra à ceux qui ne croient pas de venir vers moi. Vous savez, il y a deux choses que les gens retiennent quand vous les rencontrez. Deux choses qu'ils vont retenir de vous. Deux manifestations de votre amour. La première, c'est votre générosité. Et je parle de la générosité financière, ça peut l'être, mais du temps que vous allez prendre pour eux et du temps d'écoute. On a fait un truc intéressant quand même... au groupe de maison, l'autre soir, chez David et Céline, on a eu des temps de partage et puis David nous a apporté un truc sur la langue. Vous voyez, le pouvoir de la langue. Très intéressant. En plus, c'était vachement participatif, tout ce que j'aime dans les groupes de maison. C'était pas le truc... Et je me souviens, il y a Pauline qui était parmi nous, qui a dit quelque chose à un moment donné qui a vraiment percuté mon cœur. Elle a dit ceci. Souvent, on discute avec des gens, vous dites, mais comment vas-tu? Et puis vous commencez à poser des questions. Ben, elle raconte sa vie. Ben moi, ben, je fais ça comme boulot. Ben en ce moment, je vais pas bien. Ceci, cela. Et elle va prendre 20 minutes, une demi-heure à vous expliquer ce qu'elle est. Et puis en retour, elle dit ben je suis désolé, hein, mais je vais aller voir quelqu'un d'autre. Là, vous êtes dans une réunion style mariage, etc. Puis la personne s'en va. Elle a même pas pris le temps de vous demander. Et toi, comment vas-tu? Vous avez remarqué ça? Je ne sais pas si vous êtes ces personnes-là, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé à la fois de subir ça et d'avoir été comme ça. Et vous savez, les gens retiennent toujours notre générosité, ce qu'ils ont fait pour vous. Le temps que vous avez pris pour eux, le temps que vous prenez pour prier avec eux, le temps que vous prenez pour de pleurer. Le temps que vous prenez, des fois, il y a des personnes qui ont tellement de chagrin, ben, il vous suffit de faire qu'une seule chose, de prendre dans vos bras et que la personne pleure. Les gens retiendront toujours votre générosité. Après, le tout est de savoir ce que nous, on fait de la générosité qui nous a été donnée. Je vous raconte une petite histoire rapide. Parce que la générosité, je reviendrai sur le sujet, hein, parce que c'est vraiment important de parler de ça. C'est une valeur du royaume de Dieu, la générosité, vous le savez. Mais nous étions aux États-Unis, et vous savez, Damien me traduisait, parce que je suis anglophone, mais niveau moins 10, vous voyez. Je parle beaucoup avec les mains. J'aurais pu être un Italien américain, vous voyez. Je suis balèze. Et donc, Damien me traduisait, il était en bout de chaise, vous voyez. Enfin, en bout de rangée, comme ça, et un peu décalé par rapport à moi. Et il y avait une grande rangée, nous étions environ 4000 personnes dans cette salle. Et Damien me traduisait de temps en temps, comme ça, pour quand je comprenais pas. Et à un moment donné, il y a le pasteur qui a parlé de la générosité, et il a fait quelque chose que je voudrais vous partager, qui m'a beaucoup touché. Je suis sorti de cet instant transformé au niveau de la générosité. Alors j'espère que ça va vous parler. Vous savez ce qu'il a fait ? À un moment donné, il a présenté un bouquin dédicacé par un gars très connu aux États-Unis. Il travaille auprès des gouverneurs, etc. Un ancien pasteur. Il fait du coaching, en fait, en gros. Et cet homme a accompagné ce pasteur-là pendant des années. C'est un ami. Et il lui montre un livre. Il montre à l'Assemblée un des livres. Et ce livre est dédicacé, Chris, je te donne ce livre, tu es mon ami, etc., etc. Vous avez, ça a de la valeur, quoi. Quand un ami vous donne quelque chose. Et il dit, qui veut ce bouquin? Moi, je suis surpris, je dis, il est gonflé. Il donne quelque chose qu'on lui a offert. Et là, t'as plusieurs personnes qui n'osaient pas lever la main, puis d'un seul coup, une personne lève la main, puis une autre. Ils sont environ une quarantaine devant là, à lever la main, à dire, donne-moi le livre. Et alors, il choisit une dame, une afro-américaine, qui s'approche et dit, voyez ça, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Tenez, je vous le donne. Ça, c'est un acte de générosité que je suis en train de faire. Et puis, il me dit, maintenant, je vous montrerai ce qu'est la générosité. Ça, c'est ma générosité. La générosité selon Dieu. Et là, les portes à l'arrière de la salle se sont ouvertes. Et toute l'équipe d'accueil est arrivée avec des sacs entiers de ce même livre. 22 ou 23 dollars le bouquin. Vous comptez, nous étions sur deux sites, environ 4500, 5000. D'accord. Et là, il fonde sur nous. Je sais, c'est l'américaine, mais ça m'a beaucoup parlé. Il fonde sur nous et il commence dans chaque début de rangée à envoyer tout. Ils ne se sont pas contentés de donner un bouquin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Damien qui était là, moi j'étais à côté, Damien reçoit au moins 50 bouquins dans les bras. Et je voyais Damien crouler sous le poids des bouquins. Et qu'a fait Damien ? Vous savez ce qu'il a fait ? Il m'a donné des bouquins. Mais moi j'en voulais pas des bouquins, j'en voulais qu'un. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je jetais tout ce que je recevais. Et à la fin, il restait un bouquin pour Damien et un bouquin pour Bruno. Autrement dit, la générosité selon Dieu, c'est d'amener, nous amener tellement de générosité que nous sommes tellement submergés par la générosité, nous ouvrons tellement les yeux sur la générosité de Dieu que nous voulons donner aux autres. Et ça, moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné ? Tu m'as donné quelque chose que je ne pouvais obtenir de moi-même, quelque chose qui était inestimable, qui va bien au-delà du prix de ces 5000 livres. Tu m'as donné beaucoup plus, Seigneur. Qu'est-ce que tu m'as donné ? Tu m'as donné le salut. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as donné de te connaître. Tu m'as donné de trouver un Père. Tu m'as donné de trouver un ami, un consolateur qui est le Saint-Esprit, un Sauveur qui est Jésus-Christ, un Seigneur qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ce cadeau qui vient sur ma vie ? Qu'est-ce que je fais maintenant avec cette générosité que tu m'as manifestée ? Est-ce que je vais tout garder pour moi ? Ou est-ce que le poids de cette générosité est tellement fort, puissant, que je veux dire, je ne peux pas le garder pour moi, je dois le donner aux autres ? Réfléchissez cette semaine, vous allez voir. Ça va remettre en question votre manière de voir votre entourage, votre manière de voir les choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque nous manifestons concrètement notre volonté de nous adapter à elle. Un message, Je n'aime pas les lentilles. Ouais, je sais, saucisse, lentilles, il ne faut pas m'en parler. Mon père aimait ça, j'avais droit à ça régulièrement à la maison. Je mangeais du pain avec du beurre, je ne savais pas manger les lentilles. Vous le savez, donc si un jour vous m'invitez, message subliminal, évitez les lentilles. Je mange tout sauf les lentilles, d'accord ? Mais imaginez un instant que vous m'invitiez maintenant et que vous dites, tiens Bruno, on t'invite à la maison et puis quand tu arrives à table, vous me serviez saucisse lentilles. Je me dirais, tiens, ils m'aiment parce qu'ils m'ont invité, mais ont-ils retenu ? Ont-ils fait le pas d'aller vers moi, de me rejoindre dans ce que j'aime ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Et moi, il y a quelque chose que je retiens toujours. C'est que lorsque la personne a manifesté concrètement et pratiquement sa volonté de me rejoindre dans ce que je suis, je le retiens toujours. Quand quelqu'un vous manifeste de l'empathie, vous le retenez toujours. Et hier, je suis allé aux obsèques du pasteur de Moucron, là, le papa de Pierre, qui est décédé dimanche dernier. Il y a quelque chose que j'ai retenu de cet homme, de tous les témoignages qui étaient donnés. C'était un homme empathique. C'était un homme qui pleurait avec ceux qui pleurent. C'était un homme qui riait avec ceux qui riaient. C'est un homme qui réconfortait. C'est un qui faisait la démarche d'une volonté réelle de s'adapter à ces personnes. Il n'était pas là pour dire « fais comme ceci, fais comme cela, fais comme cela ». Les gens aujourd'hui dans notre société n'ont pas besoin de savoir ce qu'il faut faire. Les gens dans notre société ont besoin de se sentir aimés. Tu n'as pas besoin, ça c'est le Saint-Esprit qui t'enseignera toutes choses, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il faut faire et pas faire, tu as besoin d'être aimé. Maintenant je vais vous parler de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, c'était pas un tendre, hein, des fois, quand il écrivait des choses. Vous vous souvenez ? Des fois, il redresse et... Enfin, moi, quand je lis certaines choses, il n'est pas tendre. Et regardez ce qu'il écrit ici. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » La première attitude de Paul, c'est qu'il se fait serviteur. Il ne se place pas comme apôtre. Retenez bien. Il ne se passe pas comme quelqu'un ayant autorité, bien qu'il ait autorité, bien qu'il ait vu des merveilles. Il a vu le royaume, il a vu des choses. Et Paul ne se place pas comme étant supérieur à eux. Au contraire, il dit « je me place comme un serviteur ». C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je prends bien le texte. Afin de gagner le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça rejoint ce que je viens de vous dire là. C'est que quand je me place dans une attitude d'aimer, et de rejoindre l'autre, et d'être généreux avec le, de vouloir lui donner de ma vie, de mon temps, de mon argent, de ce que je possède, de ce que je connais, je le mets au service des autres, c'est que je gagne le plus grand nombre. Waouh ! C'est-à-dire que quand tu prends le temps pour ça, c'est là où tu gagnes des âmes. C'est pas en leur disant « fais ceci, fais cela ». Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Regardez le nombre de fois où l'apôtre Paul dit « afin que », »,« afin que », »,« afin que ». Et à chaque fois, il dit « gagner les âmes ». Gagner les âmes, gagner les âmes. C'est un homme qui avait compris un principe évident du royaume de Dieu. Je me fais serviteur, je rejoins l'autre dans ce qu'il est, je m'adapte à ce qu'il est, dans sa compréhension des choses, pour les gagner. Or, souvent nous avons fonctionné comme ça, et nous fonctionnons encore souvent comme ça, personnellement, mais dans la manière dont nous bâtissons l'Église. Vous savez ce qu'on fait ? On dit les gens viennent, ou les gens viennent nous voir, et nous restons sur notre position d'hommes et de femmes sauvés, qui avons la connaissance, qui connaissons plein de choses, et ce que nous faisons, nous attendons qu'ils viennent nous rejoindre. Avez-vous déjà eu cette attitude-là, ou avez-vous déjà vécu ça ? Posez-vous la question. Posez-vous la question, je vous assure. Et si vous vous la posez honnêtement, vous verrez que vous avez failli souvent. Ou alors, je suis pire que vous. Hein. Moi, j'ai failli combien de fois ? Vous savez ce... Oh, je ne sais pas si je peux le dire, c'est filmé. Mais il coupera. Alors, mais c'est compliqué de couper entre deux. Non, mais ça, hein, tu le laisseras, c'est pas grave. Vous savez ce que j'ai fait une fois ? J'ai eu le malheur de dire à quelqu'un de ma famille qu'elle allait... tu crois pas, tu vas aller en enfer. Mais j'ai été brute de pomme, c'est au début de ma conversion. Est-ce que c'est faux ce que je disais ? Bon, d'abord, il faut voir la notion de l'enfer. On va voir. Hein. Mais en gros, j'étais en train de dire tu es perdu parce que tu ne crois pas. Je disais la vérité. Mais je n'ai pas été au fond des choses vers elle, vers cette personne. J'ai été dans ma position d'homme sauvé et je n'ai pas été voir pourquoi elle ne croyait pas, pourquoi elle ne saisissait pas le royaume, pourquoi. Je ne me suis pas posé la question pourquoi. J'étais derrière ma chair, même si cette chair était invisible, c'était lors d'un repas, je lui ai dit cela. J'ai commis une grave erreur. J'ai honte de ce que j'ai pu faire. Paul avait pour objectif le salut des âmes. Quel est ton objectif à toi ? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie ? Ah, peut-être que tu cherches à venir ici et passer un bon moment entre frères et sœurs. Mais si, c'est louable, c'est intéressant. Hein ? On doit vivre la communion fraternelle. Mais l'objectif numéro un, c'est quoi ? C'est l'objectif de Paul, de sauver les âmes. Vous savez, pendant des années, je me suis posé la question. Pourquoi Paul se bat dans le livre des Actes, Actes chapitre 15, vous connaissez ça, hein, où Paul se bat contre les judaïsants. Il dit, il interdit de se faire... pourquoi vous demandez aux gens de tomber de nouveau sous la loi de Moïse ? Alors que c'est la loi de Christ qui nous a franchis de la mort et du péché. Pourquoi vous faites ça ? Donc, il se bat contre les judaïsants. Et quelques lignes plus tard, ou un ou deux chapitres après, il est dit qu'il fit circoncire Timothée à cause des Juifs. Je me suis posé la question, mais je dis, mais le gars, il a tourné sa veste. Enfin, quand vous lisez au premier abord. Mais lorsque vous regardez l'arrière-plan d'un homme qui voulait faire les choses afin de gagner Christ, afin de gagner les âmes et de les amener à Christ, là, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il savait à un moment donné s'adapter aux gens, à ce qu'ils étaient, à leur parcours, à leur dimension spirituelle. Il adaptait son message et sa manière d'être afin de gagner un maximum de personnes. Je viens de le lire, on l'a lu ensemble, vous êtes d'accord avec ça ? Me répondez pas surtout, je me sens seul. Oui. Ensuite, il était prêt à abandonner des choses pour les donner aux autres afin qu'ils vivent pour Dieu. Il était prêt à sacrifier des choses afin qu'ils vivent. Et de la même manière, nous devons créer des outils pour ceux qui ne viendront jamais à l'Église. Le mot « Église » aujourd'hui fait peur à notre société. C'est pas vrai ? C'est pas pour autant qu'on va pas arrêter de s'appeler Église Betsalel, hein, je vous rassure. Mais les gens font... Le mot « Église » fait peur aux gens. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Église a toujours donné l'image de ce que je viens du caractère noir, si je puis dire, obscur, de ce que je vous ai présenté. Tu vas à l'Église, tu es jugé. Tu vas à l'Église, on te dit fais ceci, fais cela. Tu vas à l'Église, oh mais t'es sûr d'être sauvé ? Enfin, oui, on dit plein de choses comme ça. Et on n'a pas su avoir un message qui était clair. On a prêché pendant des années. Moi, je viens d'une Église comme ça, hein. Mais je bénis, j'aime beaucoup cette église. On me disait, j'arrivais le dimanche matin, il faut faire ceci, il faut faire cela, on fait faire cela. Donc on amenait les gens dans une forme de « il faut que, yaka, faut qu'on… » Enfin, vous voyez, et on était dans un système comme ça. Or, on oubliait que la première des choses qu'on devait faire, c'était de nous connecter avec Dieu. Ce que tu as besoin, c'est pas d'entendre, ce qu'il faut faire ou pas faire. Ce que tu as, la première des choses, si je peux dire, c'est d'entendre la voix de Dieu et de connaître le cœur du Père. C'est d'être connecté avec le cœur du Père. Et ici, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'on aime. Jésus mettait les gens en connexion avec le Père. Lorsqu'on organise le culte uniquement pour les chrétiens, les expériences du passé, parce qu'ici il y a des gens qui ont de l'expérience, j'entends bien, j'ai un peu d'expérience, les cultures d'église qu'on a rencontrées, les attentes sont tellement différentes que l'on arrive souvent à des frictions, des conflits, des frustrations, car chacun voudrait voir les choses se faire comme il a envie. Ah, moi, je veux une louange d'une heure. Oui. Moi, je veux une prédication de 30, 45. François qui dit tout le temps ça. Comment c'est déjà, si je prêche un quart d'heure, je suis un évangéliste. Si je, une demi-heure, un pasteur, trois quarts d'heure, un prophète, un docteur, et une heure, un fossoyeur. Et c'est pas dans la Bible, cherchez pas la référence. Hein. C'est pas dans la Bible, là, c'est l'évangile selon François. François 1-1, voilà. Chacun voudrait voir les choses comme il a envie de se faire. Il y a des gens qui ont tous autant que nous sommes. Vous avez déjà remarqué, on a une perception de la réunion hebdomadaire du culte qui est celle-là. Moi, je voudrais que ce soit comme ça. Moi, je voudrais que ce soit comme ça. Vous savez, parce que et les conflits viennent souvent parce qu'on cherche à faire les choses pour nous. C'est-à-dire, j'invite quelqu'un à la maison, j'aime les lentilles, et tant pis s'il n'aime pas. Mais non, mais vous rigolez, mais c'est exactement comme ça qu'on est, qu'on réagit. Vous ne trouvez pas ? On cherche à faire en sorte que Bruno n'aime pas les lentilles, tu verras, je vais le gaver à coup de... comme on gave les canards, vous voyez, dans le sud-ouest, et vous verrez, il mangera ses lentilles, peu importe comment ça passera. Ça vous fait rire, mais réfléchissez, c'est comme ça qu'on fait. Bon, en exagérant, là, j'exagère, vous savez, c'est le côté, c'est mon côté un peu toujours... excentrique, exagéré, mais mine de rien, on a une mentalité qui est celle-là. Or, si notre focus reste comme Paul, afin de gagner les perdus, afin de voir les personnes être sauvées, vous allez voir, il y a beaucoup de différences qui vont tomber, qui vont s'effriter comme des murs en poussière comme ça. Et on va se dire, voilà, notre but c'est ça, on va trouver vraiment ensemble la bonne manière de faire pour gagner les âmes. Réfléchissez, vous allez voir. Priez, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais vous allez voir. Avant de trouver comment faire, il faut d'abord savoir pourquoi nous faisons les choses. Pourquoi on fait les choses ici ? Pourquoi on met des choses en place ici ? Ce n'est pas pour embêter le monde. C'est pas pour dire, ah, tiens, c'est une nouvelle mode. Notre focus, c'est la brebis perdue. Vous en avez 99, enfin, j'aimerais bien qu'il y ait 99 brebis ici. Il y en a une de perdue. Mon focus, enfin, mon attention, c'est sur la brebis perdue. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas soin, je le disais la semaine dernière, des autres brebis. Hein. Alors, quelques retours de personnes qui sont venues ici. Alors, si vous prenez. Parce que moi, j'aime bien, vous savez, j'aime bien m'auditer. Qu'est-ce que tu penses de moi ? Est-ce que je suis bon ? Alors, c'est mon côté professionnel qui parle comme ça. Mais vous savez, moi, je suis audité tous les ans, je suis audité régulièrement par des organismes. Je sais ce que c'est qu'un audit, et l'audit n'est jamais quelque chose de négatif. Au début, je percevais comme ça. Le gars, il venait m'auditer, vous voyez, j'avais un audit sur mon système documentaire au travail, et le gars, il commençait, « Ouais, mais ça va pas. » Je réagissais, je dis, « Mais il me prend pour qui, lui ?» Il va dans mes affaires, là, c'est qui celui-là ? Il se permet, il sait pas ce que moi je fais à longueur d'année, je fais mon travail sérieusement, etc. Vous voyez, moi j'avais une réaction très négative des audits. Et puis avec le temps, j'ai appris à me dire, tiens, s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient me voir et qui me dit, réfléchis à là-dessus, tu fais peut-être mal, c'est pas mal en soi, vous voyez ? Donc ça, c'est un audit, parce qu'à chaque fois qu'une personne vient ici, ou une personne reste, ou des fois elle reste pas, je pose toujours la question. Je me souviens qu'une fois, un frère qui est resté ici, il m'a dit « j'ai pas du tout aimé ». Et il est revenu depuis, c'est Benoît. Enfin, il a pas voulu. Un jour, je vous assure, à Marc-en-Barœul, c'était à l'époque de chez toi, Jacqueline, tu te souviens ? Il y a Benoît qui vient un dimanche, puis j'étais content de le voir, mais je connaissais de vue, je crois, où on s'était croisés. Mais moi, je vais le voir à la fin du culte. Voilà, je me place à la sortie, comme font les pasteurs réformés, là. Bonjour, bonjour. Alors, je dis, ça vous a plu ? Tu vois, je t'avais accompagné même dehors. Il me dit, non, c'était... Je n'ai pas du tout aimé. Je suis reparti. Mais néanmoins, ma réaction sur le coup, il se prend pour qui, ce gars-là ? Attends que je le revoie. On s'est rencontrés à LL en Angleterre, tu te souviens ? 2 ans plus tard. Et puis, alors, le courant est passé, quoi. Ce qui prouve que parfois, l'impression des gens n'est pas forcément la bonne. Hein. Mais quand même, d'écouter ce que les gens ont à nous dire est important. J'aime la louange dynamique où les gens participent. Message, c'est plutôt honnête, c'est bien. J'aime l'accueil, mais je n'aime pas quand on me tape dans le dos pour me dire bonjour. Non, mais j'ai retenu ça. Vous savez que dans les 10 premières minutes où vous entrez dans un endroit, les 10 premières minutes sont les plus importantes. Vous arrivez chez quelqu'un, si vous vous sentez accueilli, si vous vous sentez aimé, le reste va couler tout seul. Par contre, les premières minutes, si vous sentez quelque chose de négatif, vous allez vous sentir sur la réserve pendant le reste de la... C'est dans les 10 premières minutes. C'est dans les 10 premières minutes où vous avez une conversation avec quelqu'un que vous voyez si le courant est passé ou pas. Pour ça que Jésus faisait attention à la manière dont il abordait les gens. J'aime l'accueil, mais je n'aime pas quand on me tape. Ah, je sais pas. C'est des gens qui sont venus ici. Je sais pas qui de l'accueil tape dans le dos. Enfin, voilà, message subliminal. J'aime les messages surtout lorsqu'ils sont simples et me permettent de les appliquer rapidement dès le lundi. Il y a quelqu'un une fois qui est jamais revenu ici. Il m'a dit, ce que j'ai aimé, c'était ultra pratique, ultra réel. C'était pas théorique. Je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. La personne n'est toujours pas convertie, hein. Mais en tout cas, elle l'a retenu ça quand elle est venue. Je n'aime pas les messages qui durent trop longtemps. Tiens, ils n'aiment pas les fossoyeurs. Je n'ai qu'une seule envie, me lever et partir. Eh oui, c'est un constat. Et ce qui ne veut pas dire qu'un message long est un mauvais message. Comprenez ce cas ? Ça dépend de la qualité du message et de la qualité de l'orateur, bien sûr. J'aime lorsque l'ambiance est festive, mais je suis un peu bloqué par l'extravagance. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être extravagant, qu'il ne faut pas lever les mains. Vous comprenez ? La personne perçoit ça. J'entends bien, je remets pas en question le fait qu'on lève les mains, le fait que... Mais il y a des gens qui voient ça quand ils viennent. Je me sens bien ici, même s'il y a des choses à améliorer. C'est-à-dire que la personne est consciente, cette personne, je la connais, elle est restée ici, mais elle m'a dit un jour, je m'y sens bien, même si je vois qu'il y a des choses à améliorer. C'est encourageant, ça, non ? Dis-moi, Bruno, ça, j'ai entendu... Allez, il n'y a pas 3 ou 4 fois par an, je l'entends, celle-là. Dis-moi, Bruno, qui prêche dimanche matin, car j'aimerais inviter un ami. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis, mais sur le coup, je dis, mais la personne est gonflée de ma... Ouais, moi, j'ai mal réagi, vous savez. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Les gens voudraient choisir leur prédicateur, maintenant ? Vous voyez ? Mais au fond, quand tu vas creuser un petit peu, même si cette question, je ne dis pas qu'elle est juste, hein, mais cette question... Si la personne la pose, c'est que quelque part, elle n'a pas confiance dans son église. Non ? Ou je me trompe ? Enfin, moi, j'ai essayé de me mettre à la place. Vous voyez, je fais l'exercice de ce que j'essaye de... Ou peut-être il attend plus un évangéliste qu'un enseignant ce jour-là, vous voyez ? Enfin, en tout cas, il y a une question quand même qui est là, dans laquelle il faudrait aller creuser. Et j'aime lorsque Dieu parle par des prophéties, et j'apprécie cela, car ici, ça se fait dans l'ordre. Tiens, ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais que ça sur le plan prophétique. D'accord ? Le culte doit être pertinent et doit correspondre à notre objectif. 1. Édifier les chrétiens. C'est-à-dire que quand vous venez ici, vous devez recevoir une parole de vie. Vous devez recevoir un temps, vous devez vivre un temps de relation avec Dieu, un temps où le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais un temps aussi où vous êtes édifié par le message. J'espère que le message vous édifie ce matin. Je n'ai pas distribué pour l'instant de tomates. On verra vos visages à la fin. Ensuite, et aussi sauver les âmes, où les personnes trouveront quelque chose à appliquer dès le lundi matin. Alors, pour vous expliquer, on se réunit avec les prédicateurs une fois par mois. Normalement, on a l'objectif de le faire. La prochaine fois, on va jeûner et prier pour rechercher la face de Dieu. Voilà. Mais avec les gens qui prêchent d'une manière régulière, on se réunit et on discute de ça. Ça, il faut que vous le sachiez. On parle de tout ça, on va parler de tout ça dans les temps prochains. Jésus utilisait des paraboles qui résonnaient aux oreilles. À un moment où les personnes sont accueillies comme si elles étaient à la maison. Répondez pas tout de suite parce que vous me direz tout à l'heure comment vous êtes senti accueilli tout à l'heure. Honnêtement, réfléchissez, mais après le message. Voilà, des nouvelles personnes, je vous présente Florence et Marion, elles ont fait le week-end LL, elles viennent pour la première fois ici. Tiens, c'est intéressant de voir comment elles se sont senties accueillies ce matin. Moi, je pose des questions à chaque fois. Ensuite, un moment où les personnes ne se sentent pas jugées, mais aimées, où l'on prend soin d'elles. D'accord ? Le culte doit créer... J'ai entendu une histoire, ouais. Je connais quelqu'un qui a une maman à qui il ne faut surtout plus parler de Dieu. Bon, il y a des gens comme ça. Or, cette femme, il y a 30 ans, elle a perdu son enfant d'un cancer. Et aujourd'hui, cette femme est incapable de se tourner vers Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que sans doute qu'elle a prié à l'époque. Elle a cherché quelque chose pour que son fils soit guéri, son enfant soit guéri. Elle n'a pas reçu ça. Autrement dit, si je ne prends pas conscience à un moment donné qu'il y a un arrière-plan dans la vie de la personne, automatiquement, il faut chercher à comprendre pourquoi la personne, aujourd'hui, il ne faut pas lui parler de Dieu. Vous comprenez ça ? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui prêcher l'Évangile, hein, mais il faut comprendre ce qui se passe dans son cœur. C'est pour ça, vous savez, les relations sont très importantes. Quand on bâtit des relations avec les personnes, on sait ce qu'il y a dans leur cœur assez rapidement. Posez les questions. Posez. Intéressez-vous à elles, vous verrez. Vous n'avez même pas besoin d'avoir de paroles de connaissance. Écoutez, c'est ce que font les psys. Hein. Ils écoutent beaucoup, hein. Ils nous font parler. Non mais c'est vrai. Hein. Et le fait de parler déjà, nous, ça nous décharge. Mais eux, avec les mots, je ne sais pas comment ils font, mais c'est une technique, hein, il faudrait demander. Ils arrivent à comprendre ce qui se passe dans notre cœur. Parce que nous, évangéliques charismatiques, on est souvent comme ça. « Ah ouais, t'es pas bien, attends, un bon coup d'imposition des mains, ça va se régler. Tu vois, regarde, tu sors de là, tout va bien maintenant, c'est fini. » Au nom de Jésus, on pense, bien sûr, Dieu est un Dieu de miracles, hein, j'entends bien, mais on pense que les choses vont être réglées comme ça. Pas toujours, malheureusement. Le culte doit créer de la joie, l'accueil, la louange doivent correspondre à cette vision. On peut s'amuser, se réjouir, car le bâtiment n'est pas le temple. Ah, je sens les dents grincer. Le bâtiment, ce lieu, n'est pas le lieu de temple du Saint-Esprit. Qui est le temple du Saint-Esprit ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit, et je le suis. Nous sommes le temple, ce n'est pas le bâtiment qui est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez ça ? Dans l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu se manifestait dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous sommes des tabernacles où la présence de Dieu se manifeste, et c'est tout à fait différent. Vous comprenez ça ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Des fois, ça grince quand je parle de ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, à vous ? Et enfin, j'ai rajouté une petite phrase que j'appellerais une phrase brunienne, Bruno. Voilà, c'est maintenant, il y a de grands philosophes comme ça, qui, on appellera les phrases bruniennes. Adapter le culte au monde ne veut pas dire devenir le monde. C'est-à-dire que quand je m'adapte aux personnes, ce n'est pas pour autant que je vais devenir un sale pécheur, un idolâtre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut trouver le juste milieu des choses. Il ne faut pas accepter le péché, mais aimer le pécheur. Jésus aimait le pécheur, sinon il n'aurait pas envoyé cette femme adultère libre. Que dit la loi, dit Jésus ? Que cette femme soit lapidée. D'accord, lui dit, répond Jésus, alors que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. L'accueil. N'oubliez jamais ceci, c'est dans les 10 premières minutes qu'une personne trouve son environnement favorable ou non. Le ministère auprès des enfants, il ne s'agit pas, c'est dommage, elle n'est pas là, mais tu répéteras à ta femme, il ne s'agit pas d'une simple garderie, mais un endroit propre, rangé. Les activités doivent être correctement préparées et ludiques. Enfin, doivent, devraient. Enfin, c'est mon côté chef qui parle. Ce n'est pas une école, mais un temps où les enfants sont mis en connexion avec Dieu. Si vous impressionnez les parents par le retour de leurs enfants, ils reviendront même s'ils n'ont pas apprécié de leur côté. Moi, je sais que quand j'allais à un endroit, les trois quarts du temps, j'y retournais parce que mes enfants me demandaient d'y aller. La louange, c'est souvent un moment favorable où le Saint-Esprit peut toucher une personne. Moi, c'est comme ça que j'étais touché la première fois que je suis rentré dans une église. J'étais touché par les chants, par les paroles des chants. Ne pas attirer l'attention sur nous, mais sur Dieu. Vous avez déjà vu des louanges où tu as le guitariste électrique ? Il est comme ça. Enfin, moi, je me mets derrière le poteau, comme ça, ce sera pas. Le gars est à genoux et puis il fait son solo de guitare. Non. On attire l'attention sur Dieu. Mais je sais que le groupe de louanges ici, c'est un groupe de louanges comme ça. Ils cherchent vraiment à attirer l'attention, de nous amener à attirer l'attention sur Dieu, pas sur le groupe de louanges. Ça, c'est vraiment très important, vous saviez, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de louanges qui sont devenues des vrais concerts. Des concerts où... c'est tout juste, j'ai vu ça, hein, donc on ne me dit pas le contraire, j'ai vu donc, des groupes dont je tirais le nom, où tu avais même les groupies et puis les jeunes filles qui allaient demander un petit autographe ou demander le selfie avec le chanteur. Non, mais ce n'est pas ça, je suis désolé de vous le dire. La louange, on adore Dieu, on n'adore pas le pianiste. Si jolie soit la responsable et la chantre et le batteur, ils sont là pour nous amener vers Dieu, pas vers eux. La prédication, c'est l'évangile qui doit être délivré. Enfin, moi, j'ai cette vision-là. Maintenant, vous m'entendrez à chaque fois prêcher la croix. Je prendrai peut-être, si on parle de quelque chose, je prendrai toujours un temps où je prêcherai la croix. Même si ça dure une minute, mais vous aurez tendré toujours le message de l'évangile. Pour cela, le message doit être simple, clair, encourageant, percutant, puissant. Et le message doit être le fruit de l'arbre de vie. Vous connaissez dans le jardin d'Éden, je ferai peut-être une fois une prédication là-dessus, il y a le fruit de la connaissance et le fruit de l'arbre de vie. Et la prédication, à mon avis, doit apporter la vie. Elle doit amener la vie dans la vie des gens, pas de la connaissance. Dans les derniers temps, on connaîtra beaucoup de choses et la foi disparaîtra. La connaissance amène souvent l'enflement. J'ai vu un truc extraordinaire aux États-Unis. J'ai déjà expliqué peut-être, non ? Où il y avait un juif messianique, non ? Ici, devant tout le monde, je l'ai fait, non ? Ouais ? Où j'ai vu ce juif messianique donner sa vie au Seigneur et se repentir ? Enfin, je raconterai à ceux qui n'ont pas. Allez, je raconte vite fait. Donc, j'ai vu vite fait dans un culte, là-bas aux États-Unis, trois personnes. Un homme noir, un homme blanc tatoué de partout. Il faisait peur, hein, les tatouages. Ah, je jurais à peine serré la main dans la rue. Et il y avait un juif avec la kippa et toutes les écritures bercées. Et cet homme, à mon avis, connaissait l'écriture. Il était bercé dans les écritures, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Vous voyez, à mon avis, Paul, il se baladait avec ses rouleaux, lui. Et ça traînait derrière, les rouleaux de la loi. Et que se passe-t-il dans ce culte? Deux des trois hommes donnent leur vie au Seigneur. Et j'ai vu le tatoué, le païen de première, quoi. Et le juif finir dans les bras de l'un de l'autre et pleurer ensemble la repentance. Mais c'est parce que l'évangile a été proclamé ce jour-là. Parce que la croix a été prêchée et que ces hommes ont répondu. Et ces hommes, cet homme, ce juif, j'avais tapé dans le dos, dans le flanc à Damien, je lui ai dit, Damien, ce gars-là, le prédicateur n'a pas intérêt de dire des bêtises. Hein. Je suis sûr que ce gars-là se lève avec tout ce qu'il connaît. Il va s'en prendre plein le nez. et la connaissance enfle. Mais la vie par l'Esprit de Dieu donne la vie. Et cet homme, je l'ai vu se repentir. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'un juif et un païen de première, si je puis dire, s'enlacent, ils pleurent ensemble la repentance et ils reçoivent Jésus dans leur cœur. Waouh ! Vous savez pourquoi ? La bonne nouvelle avait été annoncée. Pas Yaka, Faucon, hein ? Christ, la croix, le sang, tu as un problème. Tu as un problème, c'est que ton péché t'empêche d'être en connexion avec Dieu, en relation avec Dieu. Mais si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, le sang de l'agneau te lave de tout péché. Parce que on ne prêche plus le sang, on prêche. Viens à l'église, ça ira mieux. Viens à l'église, tu verras, tu vas t'épanouir, l'épanouissement de soi. Tu verras, tu seras de plus en plus beau, tu sauras gérer tes relations, etc. Non, la croix, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout cela doit être accompagné de trois éléments essentiels. Chaque personne doit comprendre et accepter qu'elle a une responsabilité personnelle dans le but de gagner des âmes et résister à l'attraction de l'égoïsme. Moi, je peux vous dire que peut-être que je suis celui qui, en ce moment, par ce que nous mettons en place, doit lutter le plus par rapport à son égoïsme. Je sais qu'on veut mettre des choses en place, mais je sais aussi que mon égoïsme me dit « Ah, c'est pas très confortable ce que je vis en ce moment. » Une équipe de prière doit couvrir pendant toute la durée du culte. J'ai demandé, vous savez, s'il n'y a pas de prière, on aura beau mettre ce qu'on veut en place, il n'y aura rien. Ce qui va toucher les gens ici quand ils viendront, c'est la prière. C'est parce que c'est porté par les prières, c'est suivi par la prière, c'est organisé dans la prière, parce que tout s'organise depuis le monde spirituel. Tout s'organise. Ici, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. Mais tout est fait par la prière. Et tout doit être accompli dans une culture d'excellence en recherchant à devenir meilleur. Je ne dis pas que... vous comprenez ce que je veux dire ? Une culture d'excellence, c'est quoi ? C'est-à-dire je cherche tout le temps à m'améliorer. Un prédicateur doit toujours chercher à s'améliorer. Un musicien doit toujours chercher à s'améliorer. Quelqu'un qui est à l'accueil doit toujours chercher à s'améliorer, à être meilleur tout le temps. C'est ce que disent les profs, en général, à leurs élèves. Hein. Encouragement, mais tu dois devenir meilleur. Vous ne faites pas ça, vous ? Ouais. Enfin, j'espère que vous le faites. Deviens meilleur. Forcément, il y a une notion. Moi, quand j'ai un de mes enfants qui avait 10 de moyenne et puis qui m'a ramené un 12, j'ai dit, c'est bien. Je t'encourage, c'est super. Enfin, on n'est plus en train de nager sur la limite. Vous voyez ? Mais deviens meilleur encore. Ne te satisfais pas de ton 12.